l'égalité d'âme et le silence sur les défauts d'autrui, la compassion universelle, la modestie et la douceur, la patience, la puissance, la force d'âme et la pureté, la discrétion, la dignité, le pardon des offenses et l'absence d'orgueil. Ceux qui sont nés au fils de Prita avec des dispositions démoniaques sont caractérisés par l'hypocrisie, l'orgueil, la colère, la présomption, l'âpreté de langage et l'ignorance. La libération finale est le destin de ceux dont les attributs sont de caractère divin. Tandis que le destin des êtres à la disposition démoniaque, nés pour partager le sort des Asuras, et l'assujettissement continuel à la naissance mortelle. Ne sois pas en proie à l'affliction, ô fils de Pandu, car tu es né avec le destin divin. Amis, voici la conférence.
Merci pour l'introduction. La Bhagavad Gita est un épisode du Mahabharata qui est attribué à Vyasa. On connaît peu de choses sur l'auteur Vyasa, mais peu importe, la tradition nous a transmis ce texte qui est là, nous étudions le texte traduit de Judge, mais comme il a été introduit dans les paroles au parlement, mais c'est un texte très ancien, il y a de nombreuses traductions un peu partout. Nous interprétons bien sûr avec Judge dans la lumière de la théosophie. Le Mahabharata est une épopée de l'Inde avec un thème qui est la guerre entre deux branches de la même tribu pour la souveraineté de Hastinapuram, c'est le nom d'une ville dite d'éléphant, en tout cas en étymologie. C'est un ancien nom de Delhi, la capitale de l'Inde actuellement. Donc, on est là en face de deux branches, d'une part les Kurus et d'autre part les Pandus. Les Kurus sont symbolisés par son frère, sans, bien sûr, nombreux, ça veut dire, une armée dont le chef est Duryodhana. Les Pandus sont cinq frères, sont symbolisés par cinq frères et le guerrier en chef est Arjuna. Et là, on va introduire Krishna qui est bien sûr aussi lié aux deux branches, en ce sens qu'il a des liens de parenté du côté des Kurus et aussi du côté des Pandus. Et donc, il se présente comme un ami des deux parties, des deux branches, et il dit qu'il va les aider tous les deux. Et il a trouvé l'astuce de se diviser, si on peut dire, en deux parties. D'une part, l'armée, et d'autre part, la personne de Krishna lui-même. Et il a dit aux deux chefs de guerre, des chefs des armées plutôt, de choisir entre les deux. Et il a demandé à Arjuna d'être le premier à choisir parce qu'il se trouve que quand il s'est... il a vu Arjuna en premier à ce moment-là. Et il a dit, choisis. Et Arjuna, de manière très simple, a choisi la personne de Krishna. Et Duryodhana, donc, il lui restait l'armée. Mais il était très content. Pour une fois, tous les deux étaient contents. Parce que pour Duryodhana, il était important d'avoir l'armée de quelques milliers d'hommes guerriers, plus les éléphants, plus les chevaux et tout ça, ça faisait une impression de grandeur. Alors que Arjuna, tout simplement, a pris Krishna, la personne de Krishna, tout seul, si on peut dire, mais cela prouve déjà, ça c'est un grand symbole, qui prouve que les intérêts des Pandous et des Kourous n'étaient pas du tout les mêmes. En ce sens que Duryodhana est le chef du clan de son frère et qui croit dans les forces matérialistes, si on peut dire, ou terrestres. Donc, il a préféré choisir l'armée, etc., toutes les forces physiques. Alors que Arjuna, qui était le chef de l'armée opposée, si on peut dire, et a choisi Krishna lui-même parce que Krishna représente quelqu'un de sage, qu'il connaissait, les deux parties connaissaient très bien, quelqu'un de plus sage et plus, disons, profond. Et donc, il a choisi quelque chose comme la sagesse spirituelle, comme objectif, si on peut dire. Et Krishna était, dans la Bhagavad Gita, les deux héros, c'est Krishna et Arjuna. Et la Bhagavad Gita se présente comme un dialogue entre Krishna, l'instructeur spirituel, qui est derrière les chevaux, parce qu'il est le conducteur du chat, c'est comme ça qu'il s'est présenté à Arjuna. Et dans le char, il y a Arjuna qui est le guerrier en chef, et il s'agit de créer une entité extrêmement solide entre le conducteur de char qui va contrôler les chevaux pour aller dans le sens qu'il veut, dans le bon sens, à être dans des positions très stratégiquement importantes pour que Arjuna, le guerrier, tire sur les opposants, donc les généraux de l'autre côté, pour arriver à gagner la guerre, parce que l'objectif est de gagner la guerre. Et déjà, ce symbolique est très puissant et qui a été commenté maintes fois, c'est les chevaux représentent les passions de l'homme, c'est mille et une passions avec une force de chevaux qui vont tirer dans tous les sens. Donc, il est important d'avoir un conducteur de char qui soit très puissant aussi et très, qui a la connaissance de mener, de guider ses chevaux, de diriger les chevaux pour aller dans les endroits exactement importants par rapport à l'objectif de gagner la guerre. Et Arjuna, qui est le guerrier, est aussi important parce que il a la responsabilité de gagner la guerre, donc il s'agit de viser les bonnes têtes, si on peut dire, et tirer les flèches pour les éliminer. Donc tout ça, c'est un symbolique qui est très important. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés dans cet état? On peut se poser la question. En fait, celui qui devait régner, le roi qui devait régner, était Dhritarashtra. C'est un roi aveugle et il est le père des Kourous, enfin de Duryodhana et son frère. Ça veut dire il devait régner, sauf que étant dans cette position d'aveugle, malvoyant comme on dit maintenant, son corps qui était issu de karmiquement préparé, était avec ce grand défaut, si on peut dire, et il lui manquait les facultés intérieures pour être capable de régner. Donc il était dans cette position d'incapacité de régner. Et son fils aîné, Duryodhana, qui aspire évidemment régner et gagner le contrôle de tout, a persuadé son père qu'il devait prendre le contrôle, et il a pris le contrôle. Mais évidemment, c'était injuste au départ parce que le roi qui était avant était le père des Pandous. Donc c'est normalement dans la descendance voulait que ce soit Arjuna et ses frères qui devaient régner. Donc c'est pour ça que comme ils ne pouvaient pas arriver à prendre la souveraineté de cet endroit, ils sont tombés comme ça en désaccord profond et la guerre est devenue inévitable. Et donc on se trouve là. Et maintenant, il y a plusieurs autres principes d'interprétation qui sont donnés par des théosophes avancés, par exemple par Subbarao et Judge Seat, la représentation que donne les conseils que donne Subbarao, Judge le cite dans l'introduction de la Bhagavad Gita. Il dit que Krishna était le symbole, si on peut dire, pour le logos, rien moins que ça. Le logos qui représente vraiment toute la base, l'essence de tout l'univers, et en particulier de tout ce qui est terrestre aussi. Et Arjuna, qui est nommé par les commentateurs comme Nara, ça veut dire homme en sanskrit, et l'homme, ça veut dire cela signifie l'homme en tant que homme de l'humanité. Ça veut dire l'homme qui est le prototype ou l'homme qui veut être, qui va évoluer spirituellement du point de vue de la théosophie. Et ce qui est important aussi, c'est que tous ces princes sont d'origine céleste, dans les deux branches. Et c'est quelque part, les deux branches étaient des cousins qui étaient élevés ensemble, avec une formation, avec les maîtres d'armes, avec tout le reste, qui étaient des formateurs communs. Et donc, cela représente une éducation qui était tout à fait pareille, etc. Et avec cette interprétation, on comprend bien qu'il s'agit de la même, entre guillemets, famille d'éducation et tout. Et par contre, on voit que Dhritarashtra est purement le corps matériel qui est dépourvu de sens profond et des sens intérieurs qui est sur le plan inférieur, mais il demande au narrateur qui est dans la Bhagavad Gita pour décrire ce qui se passe sur le champ de bataille. Donc il est complètement dépendant du narrateur pour suivre la guerre. Et les Pandous, par contre, représentent l'héritage transmis les grands sages, si on peut dire, à l'humanité quand l'humanité était dans l'enfance de l'humanité et qui ont accompagné. Donc les grands êtres spirituels dont Madame Blavatsky parle tout au long de ses écrits symbolisent bien sûr les grands sages de l'humanité, et d'ailleurs Madame Blavatsky utilise les termes du genre le regard rayonnant de lumière de ces voyants sages permet de voir au cœur de la matière. Donc on voit bien que c'est une transmission d'un enseignement très ancien et très très profond et très ancien, et qui s'occupe de l'évolution spirituelle de l'homme, de l'humanité. Alors que les gourous étaient des gens qui étaient du côté matérialité et qui s'inquiétaient que des forces matérielles. Ainsi, les gourous donne l'impression d'être la partie inférieure de notre nature qui est développée, qui arrive à maturité, si on peut dire, et a obtenu un corps comme ça, momentanément le pouvoir sur le plan physique, le plan matériel prévaut. C'est pourquoi Duryodhana, pardon, prend le pouvoir au début, parce que c'est sûr, on est sur le plan terrestre, on est sur le plan matériel, voilà. Alors que de l'autre côté, les aspects spirituels de la nature humaine sont quelque part temporairement expulsés du pays, carrément, parce que dans l'histoire, justement, l'épopée de Mahabharata, les Pandous étaient en exil, étaient forcés de quitter le pays qui était erré à travers le monde pendant 14 ans, une longue période où ils ont subi des épreuves à terribles pendant toute cette période. Mais tout ça, ils étaient expulsés parce que justement, c'était le côté matériel qui devait régner et les côtés des gens qui cherchent à l'évolution spirituelle étaient bannis, si on peut dire. Et à toutes les longues migrations, les épreuves variées, tous les malheurs qui sont arrivés pour les Pandous dans l'exil et tout ça, c'était dans la période justement d'attente, étaient les nécessités de l'évolution. Et avant que les aspects supérieurs de notre nature spirituelle puissent prendre le contrôle de la nature évolutive de l'homme, ceci se rapporte à l'ascension et la chute cyclique des nations aussi, et de la race humaine en général. Donc tout ça, c'est un symbole très puissant aussi. Et les deux groupes de facultés représentent la puissance humaine de toute façon. Celle des gourous, c'est le côté matériel, et celle du côté pandou, c'est ceux qui aspirent à l'illumination spirituelle, qui suit, disons, la, qui représente les armées hostiles des deux côtés. Et nous voilà engagés dans la guerre parce que, au bout des années d'exil, Arjuna, les Pandous voulaient reprendre le contrôle du pays et Duryodhana n'a pas accepté ça. Donc la guerre est devenue fatale et inévitable. Et la bataille elle-même se rapporte non seulement à la grande guerre poursuivie par l'humanité dans son ensemble, mais aussi la lutte qui devient inévitable dès qu'une unité de la famille humaine prend la résolution de laisser guider par la nature supérieure de l'homme. Et c'est à tous les niveaux. Dès qu'un individu ou un groupe d'individus se rebelle, il y a une réaction des anciennes habitudes, etc., qui les amis sont un peu perturbés, etc. Et ça fait partie de la vie. Et en présentant ces suggestions, Subbarao nous apporte, nous voyons que Arjuna, qui est surnommé Nara, l'homme, représente non seulement l'homme de l'humanité en tant que race, mais aussi tout l'individu qui a décidé d'entreprendre la tâche de développement de la nature spirituelle. L'expérience de Arjuna, décrite dans le poème, est donc inévitablement vécue par quiconque, il est dit, qui suivra ce chemin. Il verra dresser devant lui l'opposition des amis, de toutes les habitudes acquises, comme on a dit, et cela va, toutes les tendances héréditaires, tout ça va quelque part être perturbé et va apporter des problèmes à résoudre. Et sa réussite ou son échec dépend de la manière que il va prêter l'oreille à Krishna, le Logos, et qui va après, et normalement cet enseignement doit parler à l'intérieur et qui doit être après assimilé et mis en pratique, si on peut dire. À l'aide de ces suggestions, on a l'impression que celui qui étudie la Bhagavad Gita, qui étudie comme ça, va déjà avoir un sens mythologique, allégorique, et il va pouvoir simplement regarder ce qui va séparer ce qui est superficiel, trompeur, etc., et va aller droit vers quelque chose de plus permanent. Alors maintenant, on va donc regarder quel est le symbole du point de vue de la de l'image elle-même. On a dit donc Krishna, le conducteur de cheval, représente le manas, le mental supérieur de l'homme. Et quand il va conduire le char, il va maîtriser tout ce qui est chevaux sur le plan matériel, les corps et les instruments sur le plan matériel, et il va diriger de manière à ce que c'est la nature spirituelle, le mental supérieur, qui va diriger les chevaux là où il veut en venir, et non pas laisser les chevaux tirer dans tous les sens, parce que quand nous sommes impliqués dans la vie, nous sommes sollicités par plein de distractions, plein de choses qui attirent nos désirs, nos passions et tout ça, et qui nous empêchent d'aller droit vers un but qu'on se fixait. On est distrait, on se part dans tous les sens et on est un peu perturbé. Et ça, c'est pas le rôle du manas supérieur qui doit diriger pour que les chevaux soient bien dressés. Et il faut qu'ils tirent dans la direction que on veut qu'ils aillent. Et Arjuna, bien sûr, doit aussi faire la guerre et tirer les flèches dans la bonne direction pour éliminer tout ce qu'il faut éliminer du côté opposé pour arriver à gagner la guerre. Donc tout ça, c'est une image très puissante dans notre disons interprétation, et ça c'est, on peut dire, la base de toute interprétation. On découvre ce genre de d'image. Et si on tourne vers une autre, d'autres écrits par un théosophe avancé, c'est Judge qui dit par ailleurs en conclusion que la Bhagavad Gita inculque deux choses importantes à tout individu. D'abord, l'oubli de soi, et deuxièmement, l'action. Et ça veut dire que de cette étude de la Bhagavad Gita et de son application dans la vie, il va automatiquement ou tout naturellement, disons, naître la croyance qu'il y a un seul esprit et non pas plusieurs. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est une base commune, l'esprit qui est omniprésent, etc. Et aussi que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, mais nous devons arriver à réaliser qu'il n'y a pas de séparativité, parce que il y a justement cet esprit qui est commun, qui est répandu à la base. Et nous, on ne peut pas soustraire au karma collectif, on ne peut pas se soustraire, pardon, au karma collectif, de la race, parce que justement, on a des liens qui nous unissent, même des liens invisibles, parce qu'on est, on voit pas certaines choses, on n'a pas les yeux suffisamment entraînés, on perçoit pas les liens invisibles, et on appartient à cette race, on a ces liens, et donc on peut pas se soustraire au karma collectif. On est forcément engagé dans une guerre avec les autres aussi. Et finalement, que nous devons aussi penser et agir conformément à notre croyance, évidemment. À cette croyance qui est à la base. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif, le développement spirituel dans lequel nous sommes impliqués de par notre naissance, de par notre constitution, de par notre karma passé. Voilà, ça c'est une idée très importante que Judge nous suggère. Après, il y a une autre sorte d'idée, si on peut dire. Quand on regarde ce qui est écrit par un théosophe avancé et de l'Inde, et il interprète les choses en disant que faire la guerre sur le champ de Dharma, parce que c'est ce qui est là, enfin au début dans l'introduction, le premier verset dit sur le champ de Dharma, sur le champ des Kurus. La bataille a lieu. Donc, quand on introduit comme ça, la guerre se situe sur le champ de Dharma. Et Dharma veut dire non seulement devoir, mais il y a cette idée de devoir accompli avec l'idée d'ordre ou justice cosmique des choses. Et donc, le devoir correspond à cet ordre cosmique des choses. Par tout le karma passé, on est dans cette position pour résoudre les problèmes qui se posent. C'est un peu une interprétation très profonde qui tient compte de l'ordre général du cosmos, de l'univers, et les hommes qui sont chaque individu est devant son karma, devant son dharma, il doit accomplir ses devoirs par rapport à ça, et ça se situe au niveau du mental de l'homme, parce qu'il y a l'étude, le choix que l'homme doit faire pour agir, mais c'est au niveau du mental. Donc la guerre contre sa propre nature animale, donc c'est au niveau du mental de l'homme qu'il va essayer d'étudier, comprendre, faire les choix, et il va après dominer sa propre nature animale. Et la guerre la plus grande, si on peut dire, doit vaincre toutes nos, disons, peurs et toutes les doutes et tout. La peur de, par exemple, perdre la liberté, la peur de devenir des esclaves, la peur de toutes les guerres mondiales, si on peut dire. Et toutes ces raisons économiques, politiques, etc., ce sont des causes qui sont présentes, qui se présentent, mais il faut trouver les solutions au niveau du mental et du cœur de l'homme. Donc la situation est beaucoup plus profonde que simplement les guerres et les batailles sur le plan physique. Et il s'agit de libérer ses propres liens d'esclavage de la nature inférieure et surmonter pour s'élever, et l'homme doit s'élever et élever sa voix de la liberté spirituelle, parce que au fond l'âme est libre, la nature divine est libre, et la vertu première qui est avancée dans les descriptions de la Bhagavad Gita ou bien même dans d'autres livres que la théosophie nous donne, c'est la qualité ou la vertu de sans peur ou absence de peur. Abhayam, le mot en sanskrit c'est abhayam, bhayam c'est peur, Et abhayam, c'est le a privatif, c'est absence de peur. Et l'homme doit se sentir naturellement en sécurité, parce que s'il est dans le qu'il si sa façon de choisir correspond à l'ordre cosmique des choses, il a compris les lois, il a et donc dans ce cas-là, il doit se sentir tout à fait en sécurité parce qu'il va dans le sens des forces de la nature. Et l'idée importante dans cette tradition, c'est devenir un écouteur parfait, si on peut dire. Écouteur, quand on dit ça, ça fait un peu maladroit en français, mais dans l'école de Pythagore et aussi dans les écoles de l'ancien Inde, il est avancé toujours cette idée d'écouter d'abord un enseignement qui est donné et ensuite pratiquer ou mettre en pratique, mettre en application ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, ce qu'on a étudié et qu'on a assimilé parce qu'on a réfléchi, on fait des choix. Et ça, c'est une tradition ancienne. Donc la Bhagavad Gita présente justement cet enseignement pour une écoute, si on peut dire, correcte de la philosophie. Et Krishna représente ces voyants sages qui enseignent et qui présentent toute l'essence des choses. Et cet enseignement correspond à la philosophie très très importante et ancienne et profonde que Krishna communique dans cette Bhagavad Gita. Et à la fin de la Bhagavad Gita, sur le chapitre 18, qui est le dernier chapitre, tout à fait à la fin, Krishna dit, j'étais à Arjuna, j'étais communiqué cet enseignement qui est le secret même, et il demande à Arjuna, voilà maintenant, agis comme il te semble le mieux. Donc il laisse le libre arbitre, le choix à Arjuna, et son rôle de présenter l'enseignement se termine. Et puis Arjuna dit justement, répond à ce moment-là qu'il a que son illusion est dissipée et il est libre de doute et il va agir selon l'enseignement exposé par Krishna et il va accomplir son devoir. Et donc Arjuna a entendu, a gagné de l'énergie et avec son aspiration pour agir et gagner la victoire, il va agir. Voilà.